Bonjour, eh bien je suis très heureuse de vous retrouver sur Radio Sud. Je me présente, je m'appelle Claudie et je suis une ancienne animatrice de Radio Sud. J'ai présenté mes émissions une quinzaine d'années avec mon ami Pierrot, que vous avez bien connu et qui me manque beaucoup. Après avoir fait le deuil de mon ami, j'ai souhaité revenir à cette radio que j'aime beaucoup. Donc me revoilà. Ma prochaine émission s'intitule « Le Temple des Muses ». Pendant toute cette année, je vous présente les plus grands musées et aussi les plus petits qui nous racontent une histoire. Alors, suivez-moi pour une nouvelle aventure. Entrer dans un musée, c'est partir à la recherche de la beauté, regarder et nous faire comprendre comment est né et a vécu notre monde. Le musée de cette semaine que je vous fais découvrir est un musée, le Louvre, un des plus grands musées, accompagné aussi en intermède par des chansons de Benjamin Biolay, son nouvel album « Disque bleu ».
Regarde le ciel immobile et se demande où sont les villes et les ténagères invincibles qui n'est pas revenu de l'ouest. Il regarde la mer impavide qui d'un coup d'un seul se débride, puis boit la gourde à moitié vide. Le ciel et l'eau se font détresse. Il s'empare d'une lame invisible, puis solennellement désigne le port où s'alignent les grues, là où jadis il a vécu une forme de bonheur indicible, avec sa femme, son chien, ses filles. Il se dit, je suis encore chaud, j'aime bien mourir maintenant, trop beau. J'emmenais mon bateau. Et puis au cas où, je dis bien au cas où, il n'y aurait rien là-haut. Pourrais-je emmener les poteaux? Il regarde la route de l'exil et se demande où vont les îles et les grands oiseaux indociles en forme de signaux de détresse. Il rêve des berges du Tibre, du Nil, humant la fumée d'une de Nil. Il reste au loin quelques collines allongées dans la brume épaisse. Avant ici avait des chenilles, des grands bourgeois d'une grande ville, le confluent, le pauvre et nul, et le jardin montre son cul. Le déclin était prévisible, l'humanité si peu sensible. Mais tant qu'il y aura des bistrots, je veux bien mourir maintenant, trop con. Et puis au cas où, je dis bien au cas où, il n'y aurait rien là-haut, pourrais-je emmener mon bateau. Et puis au cas où, je dis bien au cas où, il n'y aurait rien là-haut, pourrais-je emmener les poteaux. Au cas où, y'aurait rien là-haut. Pourrais-je emmener mon bateau?
J'ai oublié de vous dire que, évidemment, Pierrot n'est plus là avec moi pour la technique, mais j'ai un charmant garçon qui nous accompagne et qui se nomme Nathan. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un musée? Un musée, du grec museon, c'est un sanctuaire consacré aux muses des divinités des arts. C'est un lieu dans lequel sont collectés, conservés et exposés des objets, des œuvres d'art ou un patrimoine immatériel, dans un souci d'enseignement et de culture. Et voilà pourquoi le titre de mon émission, je l'ai baptisé « Temple des Muses ». Alors, à savoir, où se trouve le musée du Louvre? Bien sûr, il est à Paris. Alors, le musée du Louvre se trouve au cœur de Paris, dans le premier arrondissement, sur la rive droite de la Seine. Le Louvre est le point de départ d'une perspective qui traverse Paris, basée sur l'axe historique qui permettait aux rois de rejoindre rapidement leur domaine de chasse à Saint-Germain-en-Laye. Aujourd'hui, plusieurs grandes rues et monuments sont alignés sur cet axe. Il y a l'Arc de Triomphe, du Carrousel, l'allée centrale du Jardin des Tuileries, l'obélisque de la place de la Concorde, l'avenue des Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe de la place Charles de Gaulle et la Grande Arche du quartier de la Défense. Pour voir cet axe, placez-vous au pied de la statue de Louis XIV à cheval devant la pyramide du musée du Louvre.
Au soleil, une vallée de fleurs et de miel. Je dédie cette danse à l'amertume, à l'impudence, à l'habitude, à ce cœur lourd qui bat sous l'abribus. Je dédie cette danse à ceux qui fument, à ceux qui boivent, à ceux qui hument, à ceux qui font des baisers à la rue. Brûler la flamme sans s'immoler, couper les câbles et puis laisser le vent des sables tout embraser. Guerrières et grenadiers et des cosaques à fleurs d'épée, une dernière danse, un sacrifice au soleil, une vallée de fleurs et de miel. Je dédie cette danse à l'amertume, à l'impudence, à l'habitude, à ce cœur lourd qui bat sous l'abribus. Je dédie cette danse à ceux qui fument, à ceux qui boivent, à ceux qui hument, à ceux qui font des baisers à la. Cette danse aux gens des gares qui viennent de partout, de nulle part, qui voient leurs frères à même le bitume. Je dédie cette danse à l'amertume, à l'impudence, à l'habitude, à ce cœur lourd qui bat sous l'arbrébus.
Chronologie du musée du Louvre. L'histoire du Louvre commence à la fin du XIIe siècle, lorsqu'il fut construit comme une forteresse. La structure d'origine a été conçue pour défendre Paris des invasions vikings le long de la Seine. Les vestiges de la forêt médiévale sont encore visibles aujourd'hui dans le sous-sol du musée. Au XIIIe et au XIVe siècle, Charles Quint a fait transformer la forteresse en château. Dans les années qui suivirent, les monarques de France choisirent de vivre dans d'autres palais, comme les châteaux de la vallée de la Loire, plutôt qu'au Louvre. Cela a conduit à la démolition du château par François Ier au cours du XIVe siècle. Ensuite, le musée a été transformé en palais royal. À la fin du XVIe siècle, sous le règne du roi François Ier, le Louvre est parti d'une forteresse pour devenir une résidence royale. François Ier, grand collectionneur d'art et mécène, invita à la cour des artistes comme Léonard de Vinci, marquant ainsi le début de l'association du Louvre avec l'art. C'est sous son règne que les premières collections d'art ont commencé à prendre forme au Louvre. Au XVIIe siècle, Louis XIII, successeur d'Henri II, fit quelques ajouts au palais, tandis que Catherine de Médicis, sa veuve, suggéra la construction d'un nouveau palais appelé Palais des Tuileries. Par la suite, le roi Henri XIV fit construire en 1610 une grande galerie qui reliait le palais du Louvre au palais des Tuileries. Au XVIIIe, la Révolution française marque un tournant dans l'histoire du Louvre. Après le renversement de la monarchie, le Louvre est transformé en musée public. Le musée du Louvre est officiellement ouvert au public sous l'égide de l'Assemblée nationale. Les premières collections du musée étaient constituées d'œuvres d'art parties de collections royales et de propriétés aristocratiques. Au XIXe, sous Napoléon Bonaparte, la collection du Louvre s'est considérablement agrandie, car il a pillé des œuvres d'art dans toute l'Europe, en particulier après ses campagnes militaires. Le musée a été rebaptisé Musée Napoléon en 1903, et de nombreuses œuvres d'art, telles que la Vénus de Milo et la Victoire de Samothrace, ont été apportées à Paris depuis cette période. Napoléon III poursuit ses travaux et ajoute deux nouvelles ailes qui marquent l'achèvement du magnifique palais du Louvre. Vers la fin du XVIIIe siècle, en 1871, un incendie détruit le palais des Tuileries.
Mais jamais de questions orange. Anubis sur la barre d'horizon orange. Les gars de la police, mais pas de perquisition orange. On se dépêche de ne rien faire du tout, Orange. On bouffe des pêches, on s'en fout de partout, Orange. On tire des flèches sur une cible en bambou, on clenche et puis des pêches, on se tire de ce trou. Si t'as moins peur des animaux que d'être jeté dans les eaux, si tu aimes le vide abyssal, si t'aimes l'amour quand il est sale et le vent de la résurrection, la mer de sable embrase l'horizon, sois bienvenue.
XIXe siècle, la construction du palais du Louvre s'est poursuivie sans être touchée par l'incendie. Après la chute de Napoléon, les collections du Louvre ont été rendues à leurs propriétaires légitimes. Mais le musée a continué à s'agrandir. Au début du XIXe, le roi Louis-Philippe rend le Louvre encore plus accessible au public et crée le musée de la monarchie dans les anciens appartements royaux. Le musée s'agrandit encore avec la construction de la cour carrée et du grand Louvre. Au XXe siècle, le Louvre a connu d'importantes transformations au cours du XXe, notamment après son entrée dans le domaine public au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'ajout le plus emblématique du Louvre à l'époque moderne a été la pyramide de verre, conçue par l'architecte M. Peigne. La pyramide a été inaugurée en 1989 et sert d'entrée principale au musée. Il est devenu un symbole de la modernisation du Louvre, offrant un contraste contemporain à l'architecture classique.
Si vient le vent, quand d'aventure je ne suis là, que la pluie cesse et que même l'air vient à manquer. Si la rosée ne perle plus du réséda, alors dis-toi que j'ai souhaité mourir d'été, n'étant qu'à moitié moine, à moitié soldat. Je voudrais que de moi presque rien ne subsiste, une petite vue modeste, quelques arts au rien toi, ou quelques mots sur une porte de service. À défaut de rentrer, je ne pars pas vraiment. Je suis le caillou bleu ou l'oiseau dans la cour. Je suis la larme qui coule quand tu prêtes serment. Car tu sais que tu mens quand tu dis pour toujours. La nuit, quand d'aventure je ne suis là, et qu'au matin l'été je ne suis de retour. Si la rosée ne perle plus du réséda, alors dis-toi que j'ai souhaité mourir d'amour. Ceux qui m'auront connu ou même aimé parfois, pendant quelques années reverront mon visage dans le reflet d'une eau, dans le manteau d'un bois. Jusqu'au jour où mes traits se feront paysage, dans des mémoires fondues ou des rêves éthyliques, du tabac blond laissé dans un grand samovar. Toi tu n'oublieras pas nos chers travaux pratiques, en pensant que c'est moi qui te prends dans le noir. Si vient le vent quand d'aventure je ne suis là, que la pluie cesse et que même l'air vient à manquer. La rosée ne perle plus du réséda, alors dis-toi que j'ai souhaité mourir d'été. Si la rosée ne perle souhaité mourir d'été. Que si je ne reviens plus, que si je ne reviens pas, c'est parce que les neiges d'antan m'ont rappelé.
Quelles sont les œuvres les plus connues ? Évidemment, il y en a énormément. Si on veut parler de toutes les œuvres du musée, ce n'est pas possible. J'en aurais pour des jours et des jours. Alors, on va prendre les principales. Alors, il y a d'abord, parmi les dizaines de milliers d'œuvres qui composent les collections du Louvre, certaines sont particulièrement connues, comme la Joconde. Évidemment, il s'agit de la fameuse Mona Lisa. Il y a aussi le radeau de la Méduse, tableau réalisé par Girocaud entre 1818 et 1819. Cette toile de presque 5 mètres sur 7 mètres représente les naufragés de la Méduse, une frégate française qui s'était échouée. Alors ici, la célèbre Vénus de Milo, réalisée en siècle avant Jésus-Christ. Cette sculpture a été découverte sans bras sur l'île de Milo en Grèce. Mais on va revenir un petit peu plus en détail après. Alors, le musée du Louvre en chiffres. Plus de 30 000 œuvres exposées sur les près de 500 000 œuvres confiées à la garde du musée. 9 départements. Antiquité orientale, grecque, romaine, égyptienne, art de l'islam, objets d'art, sculptures, peintures, art graphique et art de Byzance et des chrétientés en Orient. Environ 10 expositions temporaires présentées chaque année. 9 millions de visiteurs en 2023, donc c'est encore augmenté. Donc 32% de visiteurs français, 13% des États-Unis, de nombreux visiteurs d'Europe, d'Italie, d'Allemagne, de Royaume-Uni et d'Espagne. 51% des visiteurs ont moins de 30 ans. 40% ont bénéficié de la gratuité. Il y a aussi les agents. 2213 agents, donc 69 conservateurs, 9 directeurs de grands départements patrimoniaux, 254 personnes de conservation, 103 agents dans les ateliers, 1285 agents d'accueil et de surveillance, une brigade de 52 sapeurs-pompiers présents 24 heures sur 24.
Dans la jungle. Joindre la ville, odeur de gasoline forte et oiseaux interdits. La fièvre embrase le bitume et les fruits rêvent de la pluie. Tiens-toi sage, mon vieux pays. Avant la nuit des algues brunes, la mer de Milan et demi, que ne rougissent nos colis. Tiens-toi sage, ô mon vieux pays. Tiens-toi sage, mon vieux pays.
coutume, on se drape dans le déni. Tiens-toi sage, mon vieux pays. Tiens-toi sage, oh mon vieux pays.
Alors, entrons un petit peu plus dans le musée. Et on va commencer par le Salon Carré et la Grande Galerie. L'une des plus célèbres salles du Louvre est un lieu dédié aux arts depuis des siècles. C'est cette pièce qui a donné son nom à tous les salons artistiques. Comme son nom ne l'indique pas, le Salon Carré est en réalité rectangulaire. L'adjectif « carré » doit se comprendre comme l'équivalent d'octogonal. La pièce a été aménagée par Louis Le Vau, l'architecte de Louis XIV, qui reconstruit cette partie du Louvre après l'incendie de 1661. Elle fait le lien entre deux pièces majeures du palais, la galerie d'Apollon et la Grande Galerie. Le Salon Carré est attribué à l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1692. Les artistes qui sont nombreux s'y réunissent et organisent des expositions présentant au public leurs nouvelles créations. Le salon devient un événement majeur du Paris de l'époque, d'où le nom de salon que l'on donne encore aujourd'hui à des manifestations temporaires qui ressemblent de nombreux exposants. En 1789, la pièce a réaménagé pour améliorer la présentation des œuvres, et en particulier leur éclairage. Une verrière est créée afin de laisser pénétrer la lumière naturelle qui est douce et égale et donc idéale pour combler les tableaux. Le Salon Carré devient ainsi une des premières salles au monde à être dotée de l'éclairage cinétal. L'éclairage cinétal, c'est l'éclairage qui vient du haut par référence à la lumière du soleil. Alors, du salon au musée. Après la Révolution, le salon auparavant réservé aux membres de l'Académie s'ouvre à d'autres artistes. L'architecte Félix Duban réaménage alors la salle pour en faire une des pièces les plus somptueuses du musée. Le magnifique décor du plafond décline toutes les nuances possibles de bleu et d'or. Des sculptures en stuc, dues à Pierre-Charles Simard, célèbrent les arts, l'architecture, la peinture, la sculpture et la gravure. Des cartouches portent le nom de ses plus célèbres artistes.
Toi qui sais le néant presque mieux que les morts, toi qui sais que le jour et la nuit sont des corps, qui dès lors qu'ils se croisent redeviennent chiens loups. Toi qui sais que très peu, pour d'aucuns c'est beaucoup. Moi qui connais la vie au travers de vitraux, mais qui n'entends plus le silence des oiseaux, qui ne croit plus en rien sauf en quelques sonates, mais qui défait tes tresses et qui dénoue tes nerfs. Toi qui sais l'écriture, l'encre mélancolie, dont les vers se rallongent en la lente prairie, dans le grand champ de mine de la codépendance, passons de l'élégie aux plus amères stances. Moi qui n'ai de respect que pour quelques prophètes, mais pour tant de musiciens, pour tant de poètes, je resterai tes chiens, tes chaînes et ton enclume, à moins que tu ne préfères que je ne sois qu'un poids plume. Il te suffit d'un mot et je pars en province. C'est une métaphore comme se serrer la pince, comme soulever le cœur ou se faire un sang d'encre. Le vent parfume l'air de jasmin et de menthe. Alors je reste là, bel enfant du silence,
debout sous ton balcon et rire à l'évidence. Je ne sais même pas si c'est la bonne adresse. C'est toi mon amour à qui ces mots s'adressent. Je ne sais même pas si j'ai la bonne adresse. J'ai 3 grammes d'amour et j'embrasse tes fesses.
Alors, nous allons continuer notre visite et nous allons passer dans la salle rouge. La couleur des murs a donné leur nom à cette immense salle qui abrite les plus grandes toiles du Louvre. On peut y admirer certains chefs-d'œuvre de la peinture française du XIXe siècle, de David à Delacroix. On marche dans ce de grands tableaux pour la grande histoire. On marche dans ce tableau, s'est exclamé Napoléon Ier devant la peinture du Sacre peint par David. Haute de 6 mètres, la toile fait près de 10 mètres de long, de quoi impressionner le spectateur et lui donner l'illusion d'assister en personne à la cérémonie. C'est l'effet que produit les grands formats, ces gigantesques peintures d'histoire. Il fallait bien trouver un espace d'exposition à la mesure de telles œuvres. À l'origine, les salles rouges sont construites lors des grands travaux d'agrandissement du Louvre, menés par Napoléon III. Le décor rouge est réalisé en 1863 par le peintre Alexandre-Dominique de Nuel. La couleur rouge fait ressortir les tableaux où dominent souvent des tons bruns. On y accroche d'abord des œuvres des maîtres français des XVIIe et XVIIIe siècles. Les grands formats du XIXe y seront entrés que plus tard.
Et les passants te savent la différence entre le temps et l'âge, entre vivre et dépérir, entre parler, causer ou bien dire. Dire je t'aime ou le ressentir ne me laisse plus jamais sortir. Même les flâneurs et les flâneuses savent le coût de l'or et du bus des plages. Où va la vie quand elle se tire, la mémoire des corps aussi des rires que d'amour. Ne me laisse plus jamais sortir. Même les innocentes savent le goût du sang versé de fausses larmes, qu'il faut entrer pour s'en sortir, qu'il ne faut pas heurter son fakir. J'ai cru perdre à nouveau ton rire. Ne me laisse plus jamais sortir. Lorsque les autres sont déchaussés, qu'il faut des dents pour oser sourire. Ne me laisse plus jamais sortir. Même les passants et les passantes savent la différence entre le bois et l'arbre, entre le pays et l'empire, entre rappel à l'ordre et souvenir, que la passion peut faire des martyrs. Ne me laisse plus jamais sortir. Entre vérité et oui dire, entre l'ignorance et la satire, que j'ai failli ne plus revenir. Ne me laisse plus jamais sortir.
Alors, on ne peut ne pas parler de la fameuse Joconde. C'est dans la salle des États qu'est exposé le tableau le plus célèbre du monde, la Joconde. Cette vaste salle, la plus grande du musée, permet d'accueillir de nombreux visiteurs. C'est aussi là que sont présentées d'autres œuvres très connues de l'école vénitienne, comme les Noces de Cana. Une vraie icône mérite une place dans le musée digne de sa célébrité. La salle des États a été choisie en 1966 pour exposer le chef-d'œuvre de Léonard. C'est la plus vaste du Louvre. Le célèbre sourire énigmatique de Mona Lisa ne cesse de séduire depuis des siècles. Un de ses premiers admirateurs fut le roi François Ier. Ce dernier, qui invite Léonard de Vinci en France, lui achète le tableau en 1518. C'est ainsi que l'œuvre est entrée dans les collections royales qui sont exposées au musée du Louvre depuis la Révolution. Depuis 2005, la Joconde trône seule au centre de la pièce, derrière une vitrine qui la protège. Cette présentation exceptionnelle répond aux exigences de sécurité, mais aussi à des nécessités de conservation. L'œuvre n'est pas un tableau peint sur toile, mais sur un panneau de bois de peuplier. Avec le temps, le bois a travaillé et une fissure s'est apparue. C'est pourquoi la Joconde doit être conservée dans des conditions de température et d'humidité extrêmement stables dans une vitrine.
Oh ma jolie, comme tu me manques les soirs de pluie. Oh mon ami, je vois tes jambes tremblantes de vie. Oh ma chérie, ma partenaire, ma sœur du lit, mon encre et mon entrée éphémère. L'art de vivre sans toi, c'est d'être ivre et sans foi ni loi. Comme je n'ai pas pleuré depuis des jours, depuis des semaines et des mois, la pluie s'en charge pour moi. Me détruit, j'ai peur de ne plus savoir ton corps, le son de ton rire. La pluie s'en moque, elle pleure encore au lieu de sourire. L'art de vivre sans toi, c'est d'être sans foi ni loi. Et comme je n'ai pas pleuré depuis des jours, depuis des semaines et des mois, la pluie s'en charge pour moi. Elle s'en charge pour moi. Que j'étais ivre, ivre de toi, ivre de toi. Ivre de toi, ivre de toi. Quand toute la pluie tombe sur moi.
Une autre vedette du Louvre, la Vénus de Milo. Elle fait partie des trois grandes dames du musée du Louvre. Son nom lui vient de l'île grecque de Milo, où elle a découverte en 1820. Acquise presque aussitôt par le marquis de Rivière, alors ambassadeur de France en Grèce. Elle est ensuite offerte au Louis XVIII. Le souverain l'offre à son tour au Louvre dès mars 1821. Et à peine 2 ans, la Vénus de Milo est passée de l'ombre à la lumière. Au moment de la faire entrer au Louvre, on envisage de faire restaurer les bras manquants. Mais l'idée est finalement abandonnée pour ne pas dénaturer l'œuvre. Cette absence de bras rend l'identification de la statue difficile. Les dieux grecs sont souvent reconnaissables aux objets ou éléments naturels, dits attributs, qu'ils ont dans les mains. Au moment de sa découverte, on hésite donc sur l'identité de la déesse. Est-ce Aphrodite, déesse de la mer, et donc particulièrement vénérée sur l'île de Milo, ou bien Aphrodite, déesse de la beauté? Comme le pourrait laisser à penser sa demi-nudité et la sensualité du corps, cet argument ainsi que les bijoux que portait la statue ont fait pencher la balance en faveur d'Aphrodite, ou Vénus pour les Romains. Sans oublier la main tenant une pomme, attribut de cette déesse sculptée dans le même marbre de Paros qui a été retrouvée.
Dans le fond, je suis capricorne et mauvais garçon, capable au mieux de pas grand chose. Ternez tes œufs, je suis un rouge à l'eau de rose. Mais quand je me baigne à le blond, on me voit toucher le fond. Encore un peu. Encore et un peu dans une mer de contrefaçon, ou dans l'aquarium d'une femme poisson. Je fume encore le soir un peu, même quand je dors, je fais des ronds de disques bleus. Oui, quand je fais mes chansons, je reste un mauvais garçon. Toujours un peu, toujours et un peu. Il m'en aura fallu quelque temps pour comprendre qu'un beau cul sans amour, c'est la plage en décembre, en décembre. Corcovado, gare du midi, arrière saison, saison des pluies, le battement d'ailes du colibri rafraîchit le corps aviné, réchauffe le cœur abîmé. Botafogo, cette chienne de vie, et presque en fin d'après-midi, il me reste tant à rater. Cependant le plus dur est fait. Du chagrin, de la contrition, quelques verres de rhum, quelques percussions. Te serrer fort, c'est encore mieux, même si tu dors. Quand je ne ferme pas les yeux, mais quand je fais mes chansons, je reste un mauvais garçon. Toujours un peu, toujours et un peu. Oui, quand je fais mes chansons, je reste un mauvais garçon, encore un peu, encore et un peu.
La victoire de Samothrace. au sommet de l'escalier, s'élance la victoire de Samothrace, une des plus célèbres statues conservées au musée du Louvre. Cette mise en scène, spectaculaire, a été longuement réfléchie pour mettre en valeur ce chef-d'œuvre de l'art grec hellénistique. Sculpture antique et architecture moderne font de cet escalier un des lieux emblématiques du musée. Elle semble flotter dans les airs, la victoire de Samothrace. Elle est une des rares statues grecques dont on connaisse l'emplacement d'origine avec précision. Elle a été conçue comme une offrande aux dieux pour le sanctuaire sur l'île grecque de Samothrace. Placée en hauteur, on devait pouvoir l'apercevoir de loin. C'est ce que veut évoquer cette mise en scène en haut de l'escalier d'Aru. L'escalier d'Aru, lui, se prête à merveille à cette extraordinaire mise en scène. Il fait partie des six grands escaliers construits sous le Second Empire au XIXe siècle par l'architecte Hector Le Fouël. Les décennies 1850-1860 marquent une époque de grands travaux, d'agrandissement et de modernisation du Louvre. Le palais est alors déjà en partie un musée. L'empereur Napoléon III fait construire une nouvelle aile pour donner un espace plus aux salles d'exposition. L'ancien escalier édifié par son oncle Napoléon Ier ne suffit plus pour desservir toutes ces galeries. De cette époque subsistent les plafonds des salles qui mènent aux collections de peintures italiennes, mais aussi le nom de Daru, un ministre de Napoléon Ier. Hector Le Fouël relève le défi de concevoir un ensemble monumental capable de desservir trois niveaux dans quatre directions différentes. Les visiteurs ont le choix. C'est en 1883, 20 ans après sa découverte, que la victoire de Samothrace est installée sur le palier supérieur.
Les trois amis n'étaient plus qu'un, car un seul a survécu, mais les défunts trouvaient le refrain et le naufrage et le couplet. Le public n'en savait rien, mais un seul des trois paradait entre les pendrillons mauvais de l'avant-scène du chagrin, chagrin. Les trois amis s'étaient connus lors d'un été sans estivant, l'ombre sans soleil au-dessus, l'humanité pendant ce temps déambulait partout cul nu. Leurs parents étaient nés déçus et confondaient leurs descendants. Ces trois-là devinrent frères de sang, puis de sang. Les trois amis se fiancèrent, mais continuèrent à faire le mur pour se bidonner bidalaire dans l'eau frelatée des rivières. Ils montraient leurs fesses aux frontières, remorque au cul de la voiture, trois cochons des confitures qui roulaient des joints de trous d'air à l'envers. Jeune a disparu en poussière au feu des cylindres, les mains gantées, la tête nue, lorsqu'un cèdre voulut l'étreindre. Les deux restants ne sourirent plus, d'un souffle on aurait pu éteindre leurs deux regards au loin perdus sur une veste seule en cintre. Ah, absinthe. Le co-survivant s'est laissé aller à broyer du brisson, le spleen est meilleur arrosé. Trois ou quatre sucrètes blondes flambées sur la surface ronde de la peur du vide laissé. En un rien de temps fut en tombe, vu le trio fut étrié, trié. Les trois amis n'étaient plus qu'un,
un seul a survécu, mais au fond de ses yeux de vaurien brûlent encore des calumets. Il se prend la tête en les mains et fait ce doux serment secret de rejoindre les deux copains lorsque le coq aura chanté l'index et le majeur en vrai.
Alors, pour terminer, on va terminer par la pyramide du Louvre. Au cœur de la cour Napoléon s'élève la pyramide du Louvre, un défi d'architecture qui est devenu le symbole même du musée. Elle n'est que la partie émergée d'un projet colossal. Le Grand Louvre, qui a modernisé le musée dans les années 1980, une entrée monumentale en forme de pyramide, il fallait toute l'audace de l'architecte sino-américain Leo Minkpen pour oser transformer le cœur même du palais. Sa création spectaculaire a fait du Louvre l'un des rares musées à avoir une œuvre d'art pour hall d'entrée. Retour dans les années 1980 sur cette incroyable métamorphose. Eh bien, l'heure est vite passée. Nathan, donc, on va terminer tout doucement notre émission et attendre dans 15 jours, je pense, pour un nouveau rendez-vous et un autre musée. Alors, à bientôt. Au revoir tout le monde. Salut. Salut Nathan.
T.I.E.U. fait la sieste, la sieste depuis l'été, les derniers jours de tendresse remonte à début août ou fin juillet. Il se dit qu'il en veut aux enfants terribles. Crasse disciple, cracheur de feu. T.I.E. fait la gueule et ça fait peur aux oiseaux, au moindre tigre qui feule. Une ombre agite un long drapeau. Il ne nous reste guère que les bords de mer et les chottes par trois de trois rivières. J'en mets ma main à couper, la gauche ma préférée. J'en mets ma main à couper, l'orage va tonner quand le réveil va sonner. Il sera mal luné avant les vents, les marées, dans notre arche de Noé, sauvant les chats et les bébés. T.I.E.U. fait la sieste, il ne s'est pas réveillé. Malgré tous les SOS et les sanglots longs des lacs asséchés, il se dit qu'il en veut au peuple qui marche. Vive le panache du skipper, du sauve-qui. Peu, j'en mets ma main à couper, la gauche m'a préféré. Ma main à couper, l'orage va tonner quand le réveil va sonner. Il sera mal luné avant les vents, les marées, dans notre arche de Noé, sauvons les chats et les
paroles de dizaines de chansons pour quelques musiciens qu'il aime. Diplomate, écrivain, amateur et connaisseur de whisky et de cachaça, mari successif de femmes toujours sublimes, le voici sur les marches de l'église du Carmo.
Bon, ça va parce qu'il nous sent pas et qui a un peu entendu le jazz, qui a un peu voyagé.
Comment on pourrait traduire en français Bossa Nova ?